Des attentats opérationnels, une expérience, c'est la règle de 3 de Amaryllis Fox. Des attentats la marquent dès son plus jeune âge et forgent en elle une conviction. Le 21 décembre 1988, Amaryllis Fox a 8 ans. Un avion de la Pan Am qui relie Londres à New York explose au-dessus de la petite ville écossaise de Lockerbie. L'attentat cause la mort de 270 personnes.
There was body after body after body. It was really devastating.
Parmi les victimes se trouve une amie proche d'Amaryllis Fox. Le 11 septembre 2001, elle se trouve à Washington. Le lendemain des attentats, elle se rend à New York pour offrir son aide. Début 2002, le journaliste américain Daniel Pearl, qui est un modèle pour elle, est décapité à Karachi. Amaryllis Fox intègre la CIA, elle veut, dit-elle, détruire l'ennemi. Avant de devenir opérationnelle, elle suit un entraînement intensif de 6 mois à la ferme, une base secrète où elle apprend de nombreuses techniques. Manier les armes, résister à la torture ou se débarrasser de ses menottes enfermées dans un coffre de voiture, etc.
My teachers were still those old school spycraft guys. You know, the chalk marks for signal sights, Rolaids are better than chalk because if they're in your pocket, you don't get in trouble, whereas chalk looks a little suspicious if you get stopped.
À 22 ans, elle devient l'une des plus jeunes femmes officières de la CIA. Elle est envoyée au Pakistan, en Birmanie, en Afghanistan afin d'établir un lien avec des criminels et empêcher que des armes nucléaires, biologiques ou chimiques tombent entre les mains des terroristes. Elle travaille sous une fausse identité, se fait passer pour une marchande d'art ethnique et voyage sans protection diplomatique ni passeport officiel. Quand sa fille naît, Amaryllis Fox ne veut plus risquer sa vie, elle quitte la CIA en 2010. Grâce à son livre, elle partage son expérience et défend aujourd'hui des convictions radicalement différentes. Désormais, elle ne souhaite plus détruire l'ennemi et estime qu'il est nécessaire de chercher à le comprendre.
The only real way to disarm your enemy.
Amaryllis Fox vit aujourd'hui à Los Angeles. Elle retourne au Moyen-Orient, en Asie, et milite pour la paix.
Amaryllis Fox, un témoignage, avoir 20 ans à la CIA, chez la TESS. On peut revenir, Amaryllis Fox, sur un moment séminal dans votre existence. Vous avez 19 ans, vous êtes en Birmanie, vous travaillez dans des camps de réfugiés et vous avez la possibilité de rencontrer de façon rocambolesque Aung San Suu Kyi, qui est une opposante, l'opposante bien connue. Vous l'interviewez, c'est très compliqué, et vous exfiltrez l'interview sur un conseil de quelqu'un qui est un de vos proches dans votre vagin comme un tampon hygiénique. Vous avez vraiment fait ça?
I did.
Effectivement,
and
oui.
It was actually Suu Kyi's idea.
C'était en so, fait son idée à elle, l'idée de Suu Kyi.
Brave Nobel laureate
with no weapons, femme,
bringing a military
lauréate prix Nobel, toute menue, qui mettait donc le régime à genoux. Et pour moi, c'était galvanisant. J'étais très jeune et je pouvais voir, en tant que jeune femme, que dire la vérité, ça avait énormément de puissance. Et tout ce gouvernement militaire ressemblait vraiment à la Corée du Nord à l'époque.
Could have all of the tanks and weapons at its disposal.
Il y avait toutes les armes à disposition et tout de même, il ne pouvait pas arrêter cette femme.
And so when we did the interview,
et donc lorsque nous avons fait cet entretien, eh bien, je crois que c'était d'une certaine façon une première opération secrète. J'ai apporté des stylos et je pensais que j'allais pouvoir envelopper les bandes autour pour les exfiltrer. Et donc vous voyez ici à l'écran l'interview, donc j'ai commencé à enrouler les bandes et Suu Kyi a mis sa main sur la mienne et m'a dit ça c'est bien pour les... c'est comme un appât en fait. Ça ils vont les trouver, mais je crois que la nature vous donne une meilleure cachette.
Vous avez été formé très jeune agent à la ferme, comme on dit, à la CIA. Une formation extrêmement exhaustive. On vous apprend à supporter le harcèlement sexuel, au cas où vous seriez confronté à ça. On vous apprend à vous arrêter au feu orange. On vous apprend à manier des armes. Et on vous apprend aussi, éventuellement, à savoir comment vous suicider si vous êtes en danger, comme agent clandestin.
Eh
bien, la formation là-bas avait toutes les composantes, on voit ça dans les films, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que le cœur du métier puisse se faire en sécurité. Et là, je parle de ces petites choses, donc le fait de construire la confiance avec l'adversaire, le membre d'un groupe qui veut vous effacer de la surface de la planète. Donc c'est une bataille, une aventure émotionnelle plutôt que physique. Tous les outils, en fait, visent à assurer cette sécurité.
Anne.
Oui, à la CIA, il y a agent et il y a agent. Il y a ceux qui savent qu'en cas de pépin, ils pourront compter sur l'agence, et ceux qui savent que s'il y a un problème, ils seront abandonnés sans soutien et avec lesquels on ira tout lien. À quoi ça sert pour les services secrets d'avoir des agents clandestins comme ça?
Well, it depends what kind of source you're trying to develop.
Ça dépend du type de source que l'on cherche à atteindre. À l'époque de la guerre froide, tous les membres qui posaient une menace étaient membres du gouvernement étranger, donc il y avait des parties diplomatiques, des soirées donc où l'on pouvait retrouver les sources. Mais aujourd'hui, on est dans un monde de menaces asymétriques. Et beaucoup de groupes terroristes ne font pas la distinction entre le département d'État, la CIA, etc. Tout Américain, tout représentant du gouvernement n'est pas le bienvenu. Et donc, il y a d'autres façons de faire en sorte d'établir des liens avec ces sources, de leur donner la possibilité de sauver des vies plutôt que de les détruire. Et c'est très intéressant à faire, puisque vous voyez qu'il y a cette étincelle en eux, cette toute petite étincelle. Peut-être qu'effectivement, on n'est pas très à l'aise avec ce que le groupe va faire, mais peut-être que ça peut être un petit peu différent. Donc, vous allez essayer d'attiser un petit peu cette étincelle, de construire la confiance et de leur donner la chance de laisser quelque chose de différent, une trace plus positive. Et à partir du moment où vous travaillez ensemble, vous mettez vos deux vies en jeu pour un meilleur avenir. Et c'est absolument extraordinaire. Et c'est quelque chose qui n'est pas capté par les films d'action.
On va évoquer l'actualité avec vous, Amaryllis Fox, et avec Nadia à propos de Donald Trump, de l'Iran et de la CIA.
Oui, parce que comme nous tous, vous devez observer attentivement ce qui se passe. Donc la situation entre votre pays, les États-Unis et l'Iran, depuis l'exécution du général iranien Soleimani par des drones américains, on le sait, des missiles se sont abattus sur des bases militaires en Irak. Et cette semaine, le Sénat américain se penche sur un projet de loi très important qui vise à limiter le pouvoir de Donald Trump de lancer des opérations militaires, en l'occurrence contre l'Iran. Il redoute un président totalement soumis au briefing de la CIA. Les démocrates, en tout cas, le redoutent. Et quatre sénateurs républicains se sont ralliés, étonnamment, à ce texte-là. L'un d'eux, il s'appelle Mike Lee, s'est montré devant les caméras cette semaine particulièrement virulent et en colère. Il a déclaré ceci: c'est inacceptable que de hauts responsables, et je me fiche qu'ils soient de la CIA, viennent nous dire si on peut débattre ou non du bien fondé d'une intervention militaire. Vous êtes d'accord avec lui? Les agences, la CIA, ont trop d'influence sur les présidents américains et en particulier peut-être sur celui-ci, sur Donald Trump?
Mais je crois que ce qui m'a particulièrement frappé cette semaine, c'est le rôle des communications en coulisses pour empêcher l'escalade. On sait que les Suisses ont joué un rôle entre Téhéran et Washington, et c'est ça qui représente la beauté de la communauté du renseignement en général, c'est-à-dire que les dirigeants peuvent proférer des menaces, mais finalement, en coulisses, on peut s'assurer que les tensions ne soient pas attisées. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'erreur.
Une dernière question à Amaryllis Fox. Vous fascinez, ce récit fascine, vous attirez aussi des critiques aux États-Unis. Des anciens agents de la CIA vous ont un peu accusé de fabuler, notamment à propos de la rencontre avec un chef d'une cellule terroriste de Al-Qaïda qui voulait organiser un bombardement et à qui vous avez conseillé d'utiliser du clou de girofle pour soigner son bébé, et il n'y a pas eu d'attaque à la suite de votre intervention. Est-ce que ce sont des critiques sexistes, de vieux agents, de vieux mâles blancs has-been, ou est-ce que vous avez un peu enjolivé?
Je crois que c'est plutôt le reflet du processus de critique avec ces livres. Évidemment, sur le terrain, on ne peut pas partager tout ce qu'on vit. Donc il y a des choses qui sont passées en revue. On vous dit qu'il faut modifier des choses, qu'il faut en supprimer. Et donc, le défi, c'est de présenter les choses que vous avez le droit de présenter d'une façon qui soit cohérente, sachant qu'il y a évidemment des lacunes. Mais ça en vaut la peine, puisqu'il y a toujours cette tension entre la transparence et la sécurité. Et si l'on veut apprendre de notre passé, si l'on veut tirer les leçons, savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, il faut partager notre histoire dans les confins de ce qui est autorisé.